sur RFI.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Ça pourrait avoir un petit charme rétro, le sentiment de repartir dans les années 50. Sauf que non, le retour du London Fog, le brouillard londonien, est une vraie mauvaise nouvelle, puisqu'il signale un épisode aigu de pollution. À plusieurs reprises en ce mois d'avril, mais aussi fin mars, les habitants de la capitale britannique ont découvert les immeubles de la City entourés d'un voile épais. Et plus qu'un fog, il faudrait parler d'un smog, un nuage de pollution, et ça n'a rien de positif. Reportage limpide, signé Marie Billon.
Il faut casser le mythe du brouillard londonien. Habitants et touristes, ils sont encore beaucoup à penser au London Fog avec mélancolie.
C'est presque atmosphérique. Je ne sais pas si c'est vraiment romantique, mais ça crée une ambiance spéciale.
Selon David Dagenac, un Français installé à Londres et spécialiste de la qualité de l'air au King's College, on en fait un peu trop autour du London Fog. Déjà, on oublie souvent que le Great Smog de Londres de 1952, quand on ne voyait pas à un mètre devant soi, a tué 4000 personnes. Ensuite...
Il n'y a pas plus de brouillard ici à Londres qu'à Paris. Aujourd'hui, il n'y a pas de brouillard. Hier, il n'y avait pas de brouillard. Et demain, il n'y aura sûrement pas de brouillard. Maintenant, nous avons encore certains jours de brouillard, comme dans toutes les villes du monde. Et bien sûr, le brouillard peut se mélanger avec la pollution. Et quand c'est une journée assez chaude pour la période printanière, cela forme une genre de cocotte minute. C'est-à-dire que la pollution se mélange au brouillard et ne s'échappe pas de la ville, en fait.
C'est bien ce qui s'est passé en mars et en avril. L'épisode de pollution rendait peut-être la vue sur la City étrangement jolie, mais c'était bel et bien un épisode de pollution.
Au printemps, on a environ 3 ou 4 épisodes de pollution assez importantes, et sur l'année, une douzaine d'épisodes. Ce sont des épisodes différents. L'été, ce sont des épisodes d'ozone, alors que l'hiver, ce sont plutôt des épisodes liés aux fines particules. On a un mélange de pollution locale, donc le trafic routier, et de pollution provenant du continent. Alors l'épisode de pollution qui est survenu fin mars et début avril avait aussi une contribution provenant du désert du Sahara.
Ce jour-là, le brouillard était littéralement palpable. Sur le pare-brise des voitures, certains se sont amusés à dessiner dans cette poussière de pollution comme dans de la buée. Les autorités ont conseillé aux gens de ne pas faire de sport à l'extérieur ou de rester le plus possible chez eux, mais tous n'ont pas suivi le conseil, comme Catherine, adepte du vélo qui travaille dans le centre de Londres.
Je sais que certaines personnes ont dit qu'ils avaient du mal à respirer, mais moi, je n'ai rien ressenti de spécial.
De toute façon, à part ce conseil, restez chez vous, braves gens, les autorités n'ont pas pris de mesures particulières. La circulation n'a pas été diminuée, par exemple, aux grandes dames de Caroline Russell, porte-parole du Green Party, les Verts britanniques, pour le transport dans le quartier d'Islington, au nord de Londres.
Ok.
On est juste devant l'école primaire de Canonbury, sur une rue très polluée avec beaucoup de voitures. C'est là que 460 enfants vont à l'école tous les jours. Pour y entrer, ils doivent emprunter cette rue polluée. Et quand ils sont à l'école, la cour de récréation est juste au niveau de la rue. Donc quand ils jouent, le moment où ils respirent le plus profondément, ils inspirent des particules de diesel ou provenant du frottement des pneus ou de l'usure des plaquettes de frein.
L'école a bien quelques arbres pour séparer la cour de la route, mais ça n'est pas assez. Il faudrait un mur d'arbres et puis surtout moins de voitures. Londres est une ville très polluée, bien moins que pendant la révolution industrielle et un peu moins depuis que la congestion charge, le péage urbain de Londres, a été introduit en 2003, mais il ne concerne que le centre-ville. La circulation reste la première cause de pollution dans la capitale. Caroline est d'ailleurs une grande fan de la congestion charge.
Le péage urbain devrait concerner Londres tout entier. Les bénéfices pour la santé sont immenses. Moins de voitures, c'est moins de dangers sur les routes et moins de pollution. Et les gens se font du bien parce qu'en marchant ou en faisant du vélo, ils font de l'exercice. Et puis on pourrait aussi réduire la vitesse à 15 km/h dans tout Londres. Comme ça, les gens prendraient leur vélo et ça irait plus vite.
Le maire de Londres, Boris Johnson, est très critiqué pour son manque d'initiative en faveur de l'environnement. Durant le dernier épisode de pollution, il n'a rien fait et quand il est arrivé à la mairie, il a réduit la taille du péage urbain. Mais certains projets sont cependant en cours, selon David Dagenac.
À partir de 2018-2020, il y aura ULEZ, Ultra Low Emission Zone, qui ne touchera que la zone de congestion charge, mais qui en fera... suivant la mairie de Londres, la zone la moins polluée du monde, c'est-à-dire que seulement les véhicules les moins polluants pourront rentrer dans cette zone. Ce serait possible que ce soit que des véhicules électriques, mais à mon avis, ce sera plutôt des Euro 6 engines, c'est-à-dire les moteurs les moins polluants de 2020.
Une des excuses avancées par le maire de Londres, c'est que la pollution à Londres n'est pas celle de Londres, mais celle plutôt de Paris ou du continent. Il y a du vrai, mais si la capitale britannique prend des initiatives pour réduire la pollution, estime David Dagenac, et si le continent fait de même, Londres sera finalement deux fois moins polluée, et son brouillard pourra peut-être alors mériter son qualificatif de romantique.
Et à Londres, tout comme à Paris, mais aussi à Ostrava, en République tchèque, on déconseille aux habitants de sortir certains jours de l'année. Respirer est devenu un sport bien trop risqué. Ostrava, dans l'est du pays, a le secret d'un petit mix de polluants particulièrement nocifs. Les explications de Christine Dupré.
Ostrava n'est plus l'énorme centre industriel de l'époque communiste. Pourtant, ses habitants vivent plusieurs fois par hiver sous une épaisse couche de smog faite de poussière, d'oxyde d'azote, de soufre et d'autres particules cancérogènes. Les aciéries qui restent continuent de polluer en dépit de la lente entrée en vigueur de nouvelles normes de production. Et à cette pollution industrielle, à celle toujours causée par le chauffage au charbon, s'ajoute désormais la pollution engendrée par la circulation automobile. La teneur de l'air en particules nocives peut dépasser 4 ou 5 fois le seuil d'alerte de 50 microgrammes par mètre cube. Là, les autorités conseillent aux personnes fragiles de rester chez elles. C'est vrai surtout pour les enfants asthmatiques, 4 fois plus nombreux que dans le reste du pays. À plusieurs reprises, ces dernières années, les industries ont dû réduire leur production lors de pics de pollution. Les transports en commun sont devenus gratuits pendant quelques jours. Les associations de citoyens voudraient aller plus loin. Elles préconisent une interdiction de la circulation automobile dans certaines zones urbaines et sa limitation dans toute la région. Nettoyer plusieurs fois par jour les rues d'Ostrava aiderait aussi à combattre l'accumulation de poussière. Pour l'instant, les habitants de la ville se contentent de télécharger sur leur portable une application indiquant le niveau de pollution. Avec un certain fatalisme, le smog fait partie de la vie rude à Ostrava, ce qui reste quand tant d'industries sont parties. Nombre d'habitants se disent immunisés, ils conseillent aux visiteurs de porter un masque et de sortir quand même dans le brouillard ou sous la neige rousse pour faire la fête dans les bars.
L'avenir, c'est maintenant. Les jeunes européens.
La chronique. L'idée est revenue enflammer le débat politique français alors que tout le monde cherche un moyen de relancer l'emploi. Faut-il créer un SMIC jeune, un sous-salaire minimum qui permettrait aux employeurs d'embaucher les moins de 25 ans à moindre frais? L'offensive est venue cette fois de Pierre Gattaz, le nouveau président du patronat français. Bonjour Eve Minot.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes donc venu nous parler de ce SMIC jeune qui est également à l'étude dans d'autres pays européens.
Oui, en réalité, ailleurs en Europe, le principe d'un salaire minimum qui varie en fonction de l'âge est déjà acquis dans plusieurs pays, aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni, en Grèce et pourrait même voir le jour en Allemagne ou en Espagne. Dans ces pays, comme en France, on entend à peu près les mêmes arguments. La solution, que la plupart annoncent transitoire, permettrait de remettre au travail les populations les plus durement touchées par le chômage. C'est l'argument massu du mieux que rien. Ceux qui défendent cette mesure affirment en effet qu'actuellement en France, le salaire minimum de 1 445 euros bruts, 1 128 euros nets, gèlerait les embauches.
Mais le gouvernement français s'est déjà exprimé sur le sujet et c'est un non catégorique.
Oui, c'est ce qu'a très vite répondu la nouvelle ministre à la jeunesse, Najat Vallaud-Belkacem. Selon elle, la jeunesse mérite mieux. C'est également l'avis très remarqué de l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui a choisi des mots plutôt durs, parlant de logique esclavagiste. Chez les détracteurs de cette idée, on s'inquiète surtout d'un marché du travail à deux vitesses et de salaires au rabais pour cette génération déjà largement touchée par la crise et la dette.
D'autant qu'ailleurs, en Europe, ce SMIC jeune ne s'est pas toujours avéré être une recette miracle.
Non, on remarque même que les baisses de salaire minimum dans les pays européens n'ont pas eu de réel effet sur les embauches. Les entreprises n'embauchent pas parce qu'elles n'ont pas de demande, tout simplement, et donc pensent plutôt à diminuer leurs effectifs. En Grèce, le pays est dans une spirale vertigineuse du toujours plus bas. De 700 euros par mois, le SMIC jeune est passé à 440 euros. C'est 10% de moins que pour le reste de la population et approche aujourd'hui quasiment l'écueil du montant des aides publiques allouées aux chômeurs. C'est là finalement le plus gros danger du SMIC au rabais. Il relativise la valeur du travail et nie un principe fondamental du droit du travail, à travail égal, salaire égal. Cette situation est d'autant plus anormale que les jeunes européens sont souvent plus diplômés, plus qualifiés que leurs aînés.
Et au Royaume-Uni, le SMIC jeune existe depuis bien longtemps.
Au Royaume-Uni, le salaire minimum est différent selon les âges depuis 1999, date de son instauration par le gouvernement de Tony Blair. Le SMIC horaire n'est donc toujours pas le même si vous avez 16, 18 ou 20 ans. Une décennie plus tard, tout le monde s'accorde à dire que cette mesure n'a finalement pas créé vraiment de l'emploi, mais a par contre, à coup sûr, appauvri les jeunes travailleurs.
Et ailleurs, en Europe ?
Oui, en Belgique, il n'y a pas de SMIC jeune unifié, mais des tarifs dégressifs dans certaines branches. Un système qui pourrait être remis en question dans les mois qui viennent pour revenir à un SMIC unique, comme en France pour l'instant. Les Pays-Bas, quant à eux, connaissent un système qui marche plutôt bien, mais qui est surtout très adapté au marché du travail national, complètement construit autour de la flexisécurité. Autre cas intéressant, l'Espagne, qui a vu surgir, exactement comme en France, le spectre d'un nouveau SMIC jeune à l'initiative des chefs d'entreprise. Mais pour l'instant, comme le rappelle le site myeurope.info, aucune loi n'a encore été présentée. Il faut rappeler qu'en Espagne, le chômage touche 53% des moins de 25 ans et que 40% des créations d'emplois actuellement sont en réalité des stages, peu ou pas du tout rémunérés.
Merci Eve, à la semaine prochaine. Chômage encore, on en reparle au Portugal où il touche 15,3% de la population active et 35% des jeunes. Des jeunes qui n'optent pas tous pour l'exil et qui cherchent des projets économiques alternatifs. C'est le cas dans le tourisme avec deux associations pas banales dans la ville de Porto. Visite décapante avec Marilyn Darcy.
Le vrai nom du bar, c'est l'Ancre, mais son surnom, c'est le Piolio, le Pou, car c'était le bar des étudiants et c'est là qu'ils venaient taper l'incruste.
Georges entame sa visite guidée par le célèbre bar du centre de Porto. Blouson impeccable, mise soignée, Georges n'est pas un guide classique. Ancien toxicomane et dealer, il a passé des années en prison. Aujourd'hui, Georges a intégré le programme Welcome Home, destiné à la réinsertion des sans-abri. Il est désormais autorisé à promener les touristes prêts à découvrir l'envers du décor. Le Piolio, pour Georges, ce n'est pas n'importe quel café.
Ce café, il a été important dans ma vie dans les années 80. C'était le repère des toxicos. C'est là qu'on se retrouvait pour acheter et vendre notre drogue, le repère des drogués. Et puis souvent, la nuit, nous, on mettait le lieu à sac.
Georges raconte avec malice les années galères, la déchéance, la prison, mais c'est justement l'objectif de ces visites alternatives. Alors qu'on a recensé environ 1200 sans-abri à Porto, 5 d'entre eux ont été formés et seuls Georges et un ami ont été jugés aptes au travail. La coopérative sociale Welcome Home, née dans un incubateur d'entreprise, est gérée par 7 jeunes diplômés, eux-mêmes sans emploi. Alfredo Figueiredo Costa, l'un des responsables de Welcome Home.
Tous les 7, on a fait partie d'un programme coopératif jeune. On a pu bénéficier chacun de 6 mois de stage rémunéré. Welcome Home, c'est notre travail, on s'y consacre à fond. On a fait acte de candidature à un programme de financement européen et notre objectif, c'est de vivre de notre travail de réinsertion des sans-abri.
Un bar d'accueil, une pizzeria pour embaucher quelques laissés pour compte, les projets de réinsertion ne manquent pas. Alfredo y croit, sinon Comme beaucoup de jeunes, il devra partir.
C'est triste. Beaucoup de gens s'en vont. Moi-même, j'ai pensé le faire. Je suis diplômé, sans emploi. Plusieurs fois, en lançant la coopérative, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je ne pars pas chercher du travail? Et puis maintenant, avec ce projet qui m'occupe à 100%, j'ai de l'espoir. C'est comme un enfant qu'on ne peut pas abandonner.
Place du Marquis, toujours à Porto, c'est un autre genre de visite qui commence. Un World Tour, la pire des balades. Un concept adapté à Porto par trois architectes. Pedro, Isabelle, Margarida. Au chômage, agacés par la dégradation du milieu urbain, eux aussi veulent raconter une ville différente. Démarrage devant un petit pavillon muré et bétonné, une ancienne bibliothèque populaire. Isabelle, architecte guide.
La bibliothèque a été fermée avec les travaux du métro. Ceux-ci sont terminés, mais elle n'a pas rouvert. C'est vraiment un bâtiment oublié alors qu'il pourrait être profitable à la ville et aux gens. C'est ce que l'on veut pour ce petit édifice des années 50 adapté au lieu. C'est un patrimoine vraiment précieux.
Des villas en ruines du 19e siècle aux rénovations ratées, en passant par des monstruosités de béton, laides et inefficaces, Isabelle et Pedro ont beaucoup à montrer. Diplômés de la remarquable école d'architecture de Porto, expérimentés, la crise les empêche d'exercer leur métier. Isabelle.
L'architecture, c'est notre bagage intellectuel. Exercer à nouveau, ça va être difficile. Des petits projets coup de cœur, peut-être. Pendant 10 ans, j'ai été architecte et ça m'a vraiment plu. Si je veux continuer ce métier, il faut que je quitte le pays. Mais voilà, j'ai presque 40 ans. Recommencer une fois sa vie, ok, mais 2 fois, 3 fois, c'est dur. Parce qu'on a beau dire que la vie est un éternel recommencement, moi j'ai des doutes. Ça finit par peser lourd.
Les projets alternatifs et engagés, comme The Worst Tour et Welcome Home, permettent à la génération de l'austérité et de la crise d'espérer encore, la dérision étant désormais une arme sociale.
À Vienne, on ne plaisante plus avec les graffitis. La police mène une guerre sans merci contre tous ceux qui veulent imprimer leurs tags sur les murs de la ville. Deux artistes urbains l'ont appris à leurs dépens. Récit musclé signé à Vienne, Nathanaël Vitran.
Un peu partout dans Vienne, on peut encore croiser sa signature, Poubert, quelque part entre puberté et publicité. 5 lettres, rarement plus, parfois taguées à l'arrache comme un geste obscène. Un doigt d'honneur fait à la ville, mais aussi aux autres graffeurs. Poubert ne respectait pas la règle implicite dans le monde du graff urbain, qui consiste à ne pas taguer par-dessus l'œuvre d'un autre artiste. Lui ne se gênait pas. Rien qu'à Vienne, on lui attribue 100 de graffitis plus ou moins imposants depuis l'été dernier. Sur les murs, les barrières, les tramways, les trains, les écoles, Poubert et partout. De quoi sérieusement énerver la police viennoise qui, après des semaines de traque, a fini par identifier Poubert. Il s'agirait d'un jeune Suisse de 29 ans. C'est la version allemande du magazine Vice, connu pour avoir ses entrées dans les milieux culturels alternatifs, qui révèle son arrestation. D'après le journal, Poubert s'était autoproclamé ennemi public numéro 1 et prenait beaucoup de plaisir à jouer au chat et à la souris avec la police. Quand ses colocataires l'informent que la police cherche à l'arrêter, il n'hésite pas longtemps, raconte le journal. Il glisse quelques affaires dans un sac et tente de sortir par les toits. Mais les policiers le rattrapent et finissent par lui passer les menottes. Dans l'attente de son procès, le jeune homme nie aujourd'hui être l'auteur des graffitis incriminés. La justice a carrément demandé à un graphologue de se pencher sur ses tags pour tenter d'établir sa culpabilité. Mais la guerre au graffiti entrepris par la police viennoise ne s'arrête pas là. Un autre artiste britannique, cette fois, et 2 de ses comparses ont eux aussi été arrêtés moins d'un mois après Poubert. Eux auront plus de mal à nier, ils ont été pris sur le fait. Leur tag à eux était plus élaboré, un massif teabag coloré et pétillant. Pas de quoi émouvoir les policiers qui parlent d'un groupe de professionnels recherchés également à Prague et Budapest. Ils avaient même sur eux un jeu de clés leur permettant d'accéder au réseau souterrain de la ville. Dans la capitale autrichienne, on aime beaucoup l'art nouveau, beaucoup moins la nouveauté dans l'art.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur Internet, sur notre site rfi.fr, rubrique émission, et sur Facebook. À demain!